présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Vers un gouvernement de gauche en Espagne, les socialistes et Podemos ont conclu un accord 2 jours après les législatives. Mais la gauche reste minoritaire au Parlement espagnol. La correspondance de Mathieu Le Taillac à Madrid dans un instant. Israël abat un chef du djihad islamique à Gaza. Les Palestiniens répliquent à coups de roquettes sur l'État hébreu sans faire de blessés. Le reportage de Frédéric Mettezo à Tel Aviv. Thierry Breton franchit de justesse un premier obstacle sur la route de la Commission européenne. Le successeur de Sylvie Goulard reste critiqué par une partie des eurodéputés qui lui reprochent un possible conflit d'intérêts. Nous ferons le point avec Marie-Pierre Vérot. Les Gilets jaunes ont eu droit à une couverture médiatique sans précédent. Constat de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui a étudié l'impact du mouvement dans les journaux télévisés et sur Twitter. Une étude que nous détaillera Éric Chavroux. L'Espagne aura-t-elle un gouvernement d'union de la gauche à Noël? En tout cas, les socialistes du chef du gouvernement Pedro Sanchez et Podemos, la formation de gauche radicale, ont signé aujourd'hui un accord. Problème, les deux partis ne sont pas majoritaires au Parlement espagnol à l'issue des élections de dimanche. Ils disposent de 155 sièges sur les 176 requis pour obtenir la majorité absolue. Le PSOE et Podemos comptent rallier à leur cause plusieurs petits partis. Ils espèrent ainsi pouvoir se passer de l'encombrement soutien des indépendantistes catalans. Mathieu Le Taillac nous appelle de Madrid.
Ils ont fait en 48 heures ce qu'ils n'étaient pas parvenus à faire au cours des 6 derniers mois. L'été dernier déjà, Pedro Sanchez, le chef du gouvernement socialiste sortant, et Pablo Iglesias, le dirigeant de Podemos, de gauche radicale, avaient entamé des négociations pour gouverner ensemble, mais ils ne s'étaient pas mis d'accord sur la répartition des postes. Pedro Sanchez.
Nous sommes conscients de la déception que cela a provoquée chez les électeurs progressistes. Toutefois, ce projet politique apporte tellement d'espoir qu'il dépasse tous les désaccords que nous avons pu connaître ces derniers mois.
Le texte est court, 2 pages et 10 points programmatiques, les priorités d'un gouvernement en matière d'emploi, de lutte contre la corruption, de logement, de réchauffement climatique, de féminisme, de culture ou de vivre ensemble en Catalogne. Le texte ne chiffre pas et ne concrétise pas les propositions et surtout, il évite le sujet qui fâche, la composition du gouvernement. Pablo Iglesias.
Au cours des prochaines semaines, nous travaillerons sur tous les détails du programme et de la structure du gouvernement qui logiquement seront dévoilés après l'investiture.
La presse espagnole croit savoir qu'Iglesias a négocié le poste de numéro 3 dans le futur gouvernement de Pedro Sanchez, un portefeuille qui chapeauterait les affaires sociales. Reste aux deux partis à convaincre une 20aine de députés d'autres formations de se joindre à leur accord. Ils ont au moins 1 mois avant que ne soit organisée la session d'investiture.
Mathieu Le Taillac depuis Madrid. Et pendant ce temps-là, le roi d'Espagne est à Cuba. Felipe VI vient fêter le 500e anniversaire de la fondation de la Havane, la capitale. C'est la première fois qu'un monarque espagnol se rend sur l'île depuis que ses compatriotes l'ont quitté en 1898 à l'issue de la guerre d'indépendance cubaine. Felipe VI et la reine Laetitia sont arrivés à la Havane quelques jours avant les cérémonies de ce 500e anniversaire. Ils ont reçu un accueil chaleureux de la part des Cubains. Le reportage sur place de Domitille Piron.
C'est une première visite officielle des rois d'Espagne et les Cubains en sont très fiers. Ils ont même gardé la place du roi dans le palais des capitaines généraux. L'historienne Yamira Rodriguez Marquen.
Je ne sais pas si le roi nous fera l'honneur de s'asseoir sur le trône, non pas dans une posture coloniale qui existait 5 siècles auparavant, mais plutôt dans une relation de fraternité, d'échange culturel et puis d'héritage, car nous sommes très liés à l'Espagne par notre sang, mais aussi dans toute notre culture.
Et c'est d'ailleurs une visite qui ce vœu culturel que Felipe VI et sa femme Laetitia entament à la Havane. Il n'y aura donc pas de rencontre avec la dissidence et les rois repartent avant l'arrivée de Nicolas Maduro et Daniel Ortega pour éviter une rencontre gênante avec les invités des festivités des 500 ans de la Havane. Mais cette visite royale n'est pas anodine. Un échange avec les entrepreneurs espagnols qui font affaire à Cuba est prévu. L'Espagne est le 3e partenaire commercial de l'île et le pays a récemment critiqué la politique de sanctions américaines qui étouffe l'économie cubaine. Et c'est définitivement ce qui importe le plus, les Cubains comme Alexander Guerra.
Ils seront les bienvenus, les rois, comme tous ceux qui viennent ici avec de bonnes intentions pour le peuple cubain, car nous avons tellement besoin d'eux.
Cette Havanais, comme tant d'autres, attend donc plus que les rois d'Espagne, une amélioration des relations entre Cuba et les États-Unis.
Domiti Piron, correspondante à La Havane. La tension est remontée d'un cran aujourd'hui dans le conflit israélo-palestinien. Tout a commencé ce matin à Gaza avec la mort d'un haut commandant du djihad islamique palestinien tué dans un raid israélien. Aussitôt, une pluie de roquettes s'est abattue sur plusieurs villes en Israël, a priori sans faire de blessés. En revanche, les ripostes militaires de Tsahal ont provoqué la mort d'au moins 5 Palestiniens selon un bilan encore provisoire. Ce nouvel accès de fièvre a suscité l'inquiétude en Israël et notamment à Tel Aviv, la capitale économique du pays. Le reportage sur place de Frédéric Mettezo.
Aujourd'hui à Tel Aviv, le chant des oiseaux fait jeu égal avec le bruit des voitures. Aujourd'hui, pas d'embouteillage dans cette ville régulièrement paralysée. Dans l'immense centre commercial de la rue Dizengoff, Eli est tout seul dans sa boutique de jeux vidéo.
It's all empty, there is no business today, no customers. In the morning they said the mall is closed and in the afternoon they opened the mall but the people stays at home with the children. I hope tomorrow will be better.
Seules les personnes qui ont un abri dans leur entreprise pouvaient s'y rendre. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermées. Dans cette ville peu habituée aux alertes. Vanessa.
Moi je dormais et sur le moment j'étais un petit peu comateuse et j'ai pensé que c'était comme une sirène de pompiers ou quelque chose comme la rue, elle est très bruyante. On n'a pas du tout l'habitude et on ne sait pas forcément comment réagir.
Franck ne reconnaît pas la ville mais pas question non plus de tout arrêter.
Ça fait 20 ans que je connais Israël et que je viens régulièrement à Tel Aviv et c'est la première fois pour moi que j'entends la sirène retentir. On prend les précautions qui s'imposent sans se stresser outre mesure non plus. Quoi. On revient aussi de la plage où exceptionnellement on ne pouvait pas prendre de transat ni de parasol. On essaye de vivre malgré tout normalement.
Tel Aviv reste un point sensible, c'est le moteur de l'économie israélienne. Son aéroport international est le plus important du pays.
Frédéric Mettezo depuis Tel Aviv. Israël qui conteste formellement une décision de la Cour de justice européenne rendue aujourd'hui à Luxembourg. La CJE impose l'étiquetage colonie israélienne aux dents denrées alimentaires originaires des territoires palestiniens occupés par l'État hébreu. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, se qualifie la décision d'inacceptable. La Cour de justice européenne invoque au contraire l'obligation d'informer les consommateurs. Les précisions de Pierre Benazé.
Il faut désormais que les étiquettes des produits alimentaires concernés portent non seulement la mention « territoire occupé par Israël », mais aussi la mention « colonie israélienne ». Pour les juges européens, les colonies de peuplement installées dans certains des territoires occupés par l'État d'Israël depuis juin 1967 concrétisent, je cite, « une politique de transfert de population » qui viole les règles du droit international humanitaire. La Cour de justice de l'Union européenne estime donc nécessaire de pouvoir différencier non seulement les produits provenant d'Israël même de ceux des territoires occupés, mais aussi de ceux provenant des colonies. Les consommateurs doivent pouvoir savoir que dans les territoires concernés, Israël est présent en tant qu'occupant et non en tant qu'entité souveraine, écrivent les juges. La Cour donne donc tort aux plaignants, à savoir l'organisation juive européenne et les vignobles Psagot situés près de Ramallah, et elle valide la circulaire française de 2007 qui est à l'origine de la mention « colonie israélienne ». De son côté, la Commission européenne précise que les produits des colonies représentent moins d'1% du total des importations et elle rappelle que même si l'UE s'en tient aux frontières d'Israël d'avant 1967, elle ne soutient pas l'idée de boycott des investissements et sanctions du mouvement BDS.
Pierre Benazé, notre correspondant à Bruxelles. Emmanuel Macron a ouvert ce matin le deuxième forum de Paris sur la paix en l'absence des dirigeants des grandes puissances. Le président français s'en est pris à ceux qui lui reprochent d'avoir critiqué l'OTAN, qui serait, selon ses dires, en état de mort cérébrale. Le chef de l'État a fustigé la pudibonderie des dirigeants qui refusent de voir l'inefficacité des organismes internationaux, mais il n'a cité personne. On retiendra aussi de ce forum la mobilisation contre le travail des enfants, notamment en République démocratique du Congo. Dans ce pays, des milliers d'enfants travaillent dans des conditions épouvantables dans les mines de matières précieuses. Les explications de Bertrand Galichet.
Dans le sud de la République démocratique du Congo, des milliers d'enfants travaillent pour extraire du cobalt, de plus en plus utilisé pour les batteries des téléphones portables, des ordinateurs et désormais des voitures électriques. Sabine Gagné, d'Amnesty International.
Au bout de la chaîne, il y a des enfants qui souffrent. Souvent, ils travaillent en marge des mines industrielles, ils récupèrent des minerais du cobalt, ils trient ce cobalt, ils le lavent et ils portent des sacs extrêmement lourds. Donc, ça a des conséquences sur leur croissance, sur leur scolarisation, sur leur santé, parce que le cobalt peut être extrêmement nocif pour la santé, notamment pour les poumons. Ça peut créer des maladies pulmonaires mortelles.
Des conditions pires que celles vécues par les adultes dans les mines industrielles, censées être davantage contrôlées. Responsable du bureau de l'Organisation internationale du travail à Kinshasa, Aminata Maïga explique que la provenance du minerai est souvent difficile à établir.
Au niveau des mines artisanales, ce sont elles qui utilisent les enfants. Et par le principe d'achat sur le marché, le cobalt qui a été produit dans les mines artisanales se retrouve parfois dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises. Et il n'est pas facile de pouvoir tracer puisque la production vient des mines artisanales.
Le premier objectif de l'OIT est d'estimer l'ampleur du phénomène. Les seuls chiffres disponibles fournis par l'UNICEF en 2014 évoquaient 40 000 enfants travaillant dans les mines. Le gouvernement congolais veut maintenant mettre en œuvre la stratégie définie de longue date pour y mettre un terme. Il vise l'éradication du travail des enfants à l'horizon 2025.
Bertrand Galichet depuis le deuxième forum de Paris sur la paix à la Grande Halle de la Villette avec Laurent Lucas pour les moyens techniques. Thierry Breton a franchi aujourd'hui une première étape sur la route qui doit le mener à la Commission européenne. La Commission des affaires juridiques du Parlement européen a validé sa candidature au poste de commissaire. Rappelons que l'ancien ministre de l'économie a la lourde tâche de remplacer Sylvie Goulard, sèchement recalée par les eurodéputés. Et justement, Thierry Breton a sauté ce premier obstacle de justesse par 12 voix contre 11, car l'ancien PDG d'Atos, ce groupe de services informatiques, est mis en cause par certains élus pour de possibles conflits d'intérêts. Marie-Pierre Véraud.
Et ce vote étriqué augure d'une audition animée pour Thierry Breton ce jeudi. Jugez-en, Sylvie Goulard avait-elle passé haut la main à l'unanimité cette étape de la commission Yuri pour échouer au final devant les eurodéputés trébuchant sur les conflits d'intérêts. Or, en la matière, Thierry Breton aura fort à faire lors de son grand oral. L'ancien ministre et grand patron hérite du même vaste portefeuille promis à Sylvie Goulard, comprenant la politique industrielle, le marché intérieur, le numérique, la défense et l'espace. Il couvrira des domaines tels que l'intelligence artificielle, les supercalculateurs ou encore la cybersécurité qui ont directement à voir avec Atos, ce groupe de services informatiques dont il fut le PDG ces 11 dernières années. Alors certes, Thierry Breton a cédé ses actions pour quelque 45 millions d'euros. Il va demander la suspension du versement de sa retraite acquise chez Atos. Il a quitté différents mandats qui auraient pu gêner son indépendance et a promis de se déporté de toute décision pouvant faire peser le soupçon d'un conflit d'intérêts. Mais quelle sera son attitude face aux lobbies qui, en l'occurrence, sont ses anciens partenaires d'affaires? C'est sans doute l'un des points sur lesquels les eurodéputés voudront être rassurés. Un passé n'est pas forcément un passif, explique un membre du PPE, le parti conservateur, qui a voté en faveur de Thierry Breton. Il lui faudra en convaincre les élus de la gauche radicale, des socialistes et des Verts, qui eux ont voté contre.
À Marie-Pierre Véraud, merci. Du masque à la reconnaissance faciale, le visage est-il le dernier lieu de résistance politique? C'est le thème du temps du débat ce soir sur France Culture. Avec cette question, le visage est-il en train de devenir une ZAD, une zone à défendre? Vous retrouverez Emmanuel Laurentin et ses invités après ce journal. C'est l'Institut National de l'Audiovisuel qui l'affirme, chiffre à l'appui. Les Gilets jaunes ont fait l'objet d'une couverture médiatique sans précédent pour un mouvement social en France. Les Gilets jaunes qui fêteront dimanche prochain, 17 novembre, le premier anniversaire de leur mobilisation. Éric Chavroux, bonsoir.
Bonsoir.
L'INA a analysé les journaux télévisés entre novembre 2018 et fin mars dernier. L'Institut s'est aussi intéressé à l'écho du mouvement sur Twitter.
Pendant les 5 premiers mois de la mobilisation, un sujet sur 5 des journaux télévisés était consacré aux Gilets jaunes. L'INA s'est intéressée aux chaînes historiques, mais aussi pour le week-end et jusqu'en janvier à 2 chaînes d'information en continu. BFM et LCI ont ainsi passé plus de 14 heures par jour, le samedi et le dimanche, à évoquer ces événements. Avec un pic de médiatisation en décembre, une rapide bascule de l'économique au politique puis au sécuritaire et des paroles peu aisées à comptabiliser, explique Gérard Aline Pouls, à l'origine de cette étude.
Évidemment, on retrouve dans notre top des personnalités qui ont le plus pris la parole des Gilets jaunes, Priscilla Ludowski par exemple, mais aussi les principales figures qui ont émergé. Mais c'est sûr que les hommes et les femmes politiques interviennent davantage que les Gilets jaunes. Après, on a essayé de comptabiliser les prises de parole des anonymes, mais c'est très très difficile parce que comme par définition, ils sont anonymes, ils ne sont pas forcément identifiés à l'écran.
Dans l'ordre, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Christophe Castaner sont les personnalités politiques ayant fait le plus d'apparitions télévisées à ce propos et les violences de certains policiers ont été montrées avec un peu de retard.
Nous, ce qu'on montre, c'est que les violences policières ont été montrées, peut-être avec un peu de retard par rapport quand même aux violences des manifestants. Mais après, il faut rentrer dans des études de détails plus approfondies pour voir comment elles ont été montrées, commentées par les journalistes.
Sans surprise, Paris a été avant tout exposé, loin devant Bordeaux et Toulouse, et l'INA confirme que les journées les plus médiatisées furent celles des plus importantes violences. Qualifiées d'autres arènes des débats, Twitter est aussi passé au crible via 2 millions de messages, mais pas Facebook, jugé trop compliqué à appréhender à cause notamment de ces groupes fermés.
Éric Chavroux, merci. L'INA a également comparé le traitement médiatique des Gilets jaunes avec deux autres mouvements sociaux, les grandes grèves de 1995 et le phénomène Nuit debout en 2016. Vous en découvrirez les résultats sur franceculture.fr. À découvrir également sur notre site un article de Maxime Tellier sur les recettes possibles pour rétablir la confiance dans les médias. Faut-il interdire les listes communautaristes aux élections et notamment aux prochaines municipales? Deux élus d'opposition le souhaitent, Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, et Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains. Les deux hommes ont participé ce matin à une réunion sur le sujet organisée par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Bruno Retailleau a déposé une proposition de loi visant à interdire ces listes communautaristes. À l'évidence, le gouvernement n'y croit pas. Sébastien Lecornu, le ministre en charge des collectivités territoriales, évoquent même une proposition naïve.
Malheureusement, le communautarisme, lié notamment à l'islam politique, est un communautarisme habile, pernicieux, protéiforme, sachant se dissimuler. Personne ne va arriver en disant « Bonjour, je suis tête de liste d'une liste communautarisme et je n'aime pas la République, donc interdisez-moi ». La vraie question, c'est comment effectivement on empêche toute forme d'action de ce communautarisme. Quand vous êtes communautariste, bien souvent, vous n'avez pas besoin des médias, vous n'avez pas besoin de tracts, vous n'avez pas besoin de tribunes dans la presse pour vous faire connaître. Vous le faites avec votre propre communauté. Donc, pas de naïveté. Le vrai sujet, malheureusement, hélas, j'en suis le premier triste, c'est qu'on risque de découvrir des personnes qui ont un comportement communautariste dans les conseils municipaux au lendemain de l'élection municipale. Après, je pense que les communautarismes doivent être aussi combattus sur le terrain politique. Je pense aussi qu'il faut aller les débusquer, les démasquer, les combattre à voix haute, et ne pas simplement se rassurer en disant « c'est bon, c'est interdit, circuler, il n'y a rien à voir ». Donc le combat juridique, oui, mais il n'empêchera pas le combat politique. Là aussi, pas de naïveté. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, je trouve que dans les propositions qui sont faites par certains ténors de la droite, parfois sont empreintes de naïveté et n'ont pas suffisamment été confrontées à la réalité du quotidien.
Sébastien Lecornu, le ministre chargé des collectivités territoriales, il répondait à Rosalie Lafarge. Le procès Helvet Immo a débuté aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Helvet Immo, c'est le nom donné à ses prêts immobiliers indexés sur le franc suisse. L'opération aurait ruiné près de 5000 emprunteurs dans les années 2000. Les associations de consommateurs dénoncent des prêts toxiques. Sur le banc des prévenus, BNP Personal Finance, la principale filiale crédit de BNP Paribas, plus connue sous le nom de CTLM. C'est donc un procès d'une ampleur inédite qui s'est ouvert tout à l'heure au palais de justice de Paris où l'on retrouve Anne Lorchouin.
Un procès avec plus de 2200 parties civiles. La présidente elle-même avouait avoir du mal à les décompter. Et parmi ses victimes, beaucoup avaient tenu à être présentes pour cette première audience. La plupart d'entre elles partagent la même histoire, si ce n'est le même profil. Des cadres moyens ou supérieurs ayant un petit capital qu'ils cherchaient à faire prospérer, soit pour préparer leur retraite, soit pour constituer un bien pour leurs enfants. C'est à ces près de 5000 personnes au total que des intermédiaires, courtiers, agents immobiliers ou conseillers en patrimoine ont proposé ce produit de la BNP Paribas Personal Finance, un produit souvent inclus dans un package complet, un bien à acheter, à mettre en location, qui permettait une défiscalisation, le tout financé avec Helvet Immo. Un produit tellement sûr que mon patron et moi-même y avons souscrit, a ainsi fait croire un de ses intermédiaires à une avocate qui se retrouve aujourd'hui avec une maison dont la valeur a chuté et qu'elle doit encore rembourser. D'autres emprunteurs dont la valeur du bien a elle aussi chuté, ont dû continuer à travailler pour rembourser au lieu de partir à la retraite. Aujourd'hui, ils espèrent que ce procès leur permettra de reprendre le cours d'une vie normale.
Anne-Laure Chouin, merci. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui dans toute la France en hommage à cet étudiant lyonnais qui s'est immolé vendredi à Lyon. Le jeune homme brûlé à 90% est toujours dans un état critique ce soir. Par son geste désespéré, il voulait dénoncer sa situation. Les autorités universitaires n'avaient pas reconduit sa bourse d'études. À Lyon, le rassemblement a donné lieu à des incidents et l'université Lyon 2 a été fermée par la présidence. À Lille, les manifestants ont empêché François Hollande de tenir une conférence à la faculté de droit sur la crise de la démocratie. On termine ce journal avec le temps. Demain, légère amélioration avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne. Le ciel restera gris et parfois pluvieux sur la moitié nord. En revanche, le soleil s'imposera au sud. Température minimale toujours fraîche, de 0 à 12 degrés du nord à la Corse. Les maximales seront, elles, comprises entre 4 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.